Bonjour Rachel, que Dieu te bénisse. Bonjour aux sœurs qui sont avec toi. La sœur Ocilia, la sœur Chantal, la sœur Mona, bien le bonjour à vous quatre. Bonjour à ma belle-mère. Bon dia, Jacinta. Que Dieu vous bénisse. Vendredi 28 janvier. Il a neigé cette nuit. Bonjour Jean-Gilbert, bonjour Rosanie, que Dieu vous bénisse. Je vais juste arranger un peu la caméra. Bonjour Manon, bonjour Pasteur André. J'espère que vous allez bien. Immacula, bonjour. Alors aujourd'hui, on a deux rendez-vous. Bien entendu, ce matin, vous êtes déjà là. Et puis ce soir, 19 h, pour un temps de prière et d'intercession. Et ce soir, c'est uniquement sur la page Facebook comme ce matin. Bonjour à mon père et à ma mère. Ce matin, il fait pas trop froid en sortant cette nuit. Ceux qui ont dû ma dernière publication, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, cette nuit, il faisait 8 degrés ce matin aussi. Mais ça descend un peu durant la journée. Je pense que ça va tourner autour de moins 15 ou moins 16. Donc, le moins 8 était très agréable ce matin. J'espère qu'on n'aura pas de délai ce soir parce que le convoi de camionneurs qui se dirige vers Ottawa passe dans la région de Montréal en fin d'après-midi ou au cours de l'après-midi. Donc j'espère que ça ne bloquera pas trop. Comme vous savez, je dois aller chercher Daphné pour 16 h 30. Donc le retour à la maison, espérons qu'il ne sera pas trop compliqué et qu'il ne nous retardera pas dans notre diffusion de ce soir. Alors si vous entendez ronfler, c'est Cinéma qui est à mes pieds et qui ronfle. Ou qui ronflera. Ramon, bonjour. Bien le bonjour à Evelyne aussi. Denise, Gérard, bonjour. Vous avez peut-être reçu de la belle neige vous aussi cette nuit. Good morning, Pastor David. God bless you. Hermana Marta Lucia, que Dios me la bendiga. Y saludos también a Lakis. Marana Milor, bonjour, bienvenue parmi nous. Encore 6 ou 7 minutes avant qu'on ne débute l'enseignement officiellement ce matin. Habituellement, le vendredi, c'est un temps de prière le matin, mais comme j'avais annoncé hier, il y avait un cinquième verset à étudier pour la thématique de cette semaine. Merci Martha Lucia, qu'il en soit de même pour vous. Shalom la belle-mère. Marie Huguette, bonjour. Et bonjour à Gaël et Leïka. Dieu te bénisse, Guy. Petit point guitare. Guy, je suis allé faire plusieurs magasins hier. Et j'ai eu le malheur d'essayer une guitare Godin hors de mon budget, bien entendu. Mais ça a biaisé tout le calcul par la suite. J'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé la guitare. Une guitare québécoise en passant. Hermano Edwin. Edmund Heide, que Dios me le bendiga. Bonjour Annie, que Dieu te bénisse, bienvenue parmi nous ce matin. Bonjour Francine, soyez bénie. Allô Thérèse. Hello Sylvia, God bless you. Rosanie, bonjour. On a déjà salué Jean-Gilbert tout à l'heure, mais on le resalue. Alors pour ceux qui ont leur Bible, vous pouvez déjà ouvrir dans Colossiens chapitre 3, les versets 1 à 5 que nous lirons tout à l'heure. Merci Francine, soyez bénie. Certaines personnes nous ont écrit pour savoir si dimanche on accueillait des gens. On a la joie d'avoir appris que le déconfinement commence. Donc, on nous a annoncé qu'à partir du 7 février, du lundi 7 février, de cette date-là, on pourra accueillir des gens pour nos assemblées à l'église. Bien entendu, toujours en respectant les normes de distanciation, le port du masque et aussi l'exigence actuelle qui sera peut-être levée éventuellement, mais actuellement avec la présentation d'un passeport vaccinal à jour. Mais ça, c'est simplement donc à partir du lundi 7 février, ce qui veut dire pour nous, ça va être... Le premier dimanche sera le dimanche 13 février. Bonjour Myriam, bonjour Donald. J'espère que vous ne serez pas trop embêtés ce soir. Il y a tous les camionneurs qui se dirigent vers Ottawa pour la soirée ou le week-end, je ne sais pas trop. Donc j'espère que vous ne serez pas trop bloqués. Ils passent par Montréal en après-midi. Donc moi, j'espère ne pas être trop bloqué cet après-midi. Bonjour Natacha, bonjour Indirène, soyez bénis. Bonjour à la petite famille aussi. Salut Daniel, que Dieu te bénisse. Bienvenue parmi nous ce matin encore. Encore une ou deux minutes. Merci aussi à tous ceux qui se connectent via la page Internet de l'Église ou via les différents moteurs de recherche. Dans de tels cas, on ne voit pas vos noms s'afficher quand vous vous connectez, mais quand vous envoyez parfois des petits mots pour encourager, donc on sait que vous êtes là. Et plusieurs aussi nous regardent après coup. Donc à vous tous. Bienvenue parmi nous aussi. Alors, prions et après ça, on commence. Bonjour à Pascal, que Dieu vous bénisse. Alors, merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour ta grâce. Merci pour tous les enseignements de cette semaine et aussi pour celui que nous partagerons ce matin. On te demande, Seigneur, d'ouvrir notre entendement, d'ouvrir notre pensée, notre compréhension à ta parole, et que tu puisses, Seigneur, éclairer nos vies, afin que nous apportions dans nos vies les changements qui doivent être apportés, que nous prenions les décisions qui se doivent, et que nous puissions, Seigneur, à travers toutes les facettes de notre existence, que nous puissions être, Seigneur, une source de joie, une source de gloire pour toi, et que tu puisses nous trouver aussi dans un état dans lequel tu peux nous utiliser et te servir de nous pour l'avancement de ton royaume. Alors à toi revient toute la gloire, tout l'honneur, toute la puissance. Et nous te disons merci de nous accueillir devant ton trône de grâce ce matin encore. Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors encore une fois, bienvenue parmi nous. En ce vendredi 28 janvier 2022, on termine la thématique de cette semaine qui était « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ ». Tout au long de cette semaine, on a vu les incidences et les conséquences d'être ressuscité avec Christ, d'être parvenu à cette grâce qui nous est accordée pour le pardon et la rémission de nos péchés. Et on a vu que lorsque nous venions au contact de cette grâce, lorsque nous venons au contact de notre Seigneur Jésus, il doit survenir des changements, des transformations dans notre vie. On ne peut pas s'approcher de Dieu, on ne peut pas lui permettre de résider, d'habiter dans notre vie, dans notre cœur, sans pour autant connaître des changements et des transformations, et sans pour autant désirer et accepter d'être changé et de changer ou d'être transformé. Alors ce matin, on va un peu dans la même lignée. Je lis pour vous donc Colossiens 3, du verset 1 à 5. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, avec Christ en Dieu. Quand Christ, qui est votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Et je répète donc le verset 5 pour vous. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Alors que Dieu bénisse sa parole ce matin. La première phrase nous dit dans le verset 5, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Le terme mourir, qu'on a déjà vu à quelques reprises durant cette semaine, le terme apotnesco. Apotnesco, pour l'orthographe, vous pourrez réétudier les leçons qu'on a faites, notamment mercredi, qui veut dire mourir, périr, trépasser, terminer, finir, conclure. Alors, Paul est en train de dire qu'il faut en finir avec les membres qui sont sur la terre. Il faut en finir avec nos membres qui sont sur la terre. Membre, c'est le terme mélos, M-E-L-O-S, mélos, membre, M-E-L-O-S, qui veut dire une partie de quelque chose, une pièce de quelque chose, ou le milieu d'une chose. Alors Paul est en train de dire, il faut en finir avec les choses qui sont de cette terre, avec les aspects de notre vie qui proviennent de cette nature pécheresse qui est la nôtre. Le croyant est donc appelé à faire mourir ce qui est de la terre ou ce qui est de la chair. Et regardez bien, ici, Paul n'est pas en train de dire, priez donc que le Seigneur fasse mourir les membres qui sont sur la terre. Non. Paul va dire très clairement, sans qu'on puisse négocier quoi que ce soit ou essayer de tordre quoi que ce soit, il dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Ça veut dire que c'est ma responsabilité pour ma propre vie, ma propre existence, de faire mourir les choses de cette terre, de faire mourir les liens qui me retiennent à cette terre, de faire mourir les choses qui me ramènent à la nature de cette terre. Et on se rappelle le terme terre qu'on a étudié, je pense, mardi. Oui, mardi. Terre qui voulait dire, qui se prononce gé en grec, donc G-E, qui parle du terrain, du sol, des choses qui sont propres au terrain, au sol, mais de surcroît à cela, aussi qui veut dire marchepied. Ça veut donc dire que Paul est en train d'exhorter l'Église de Colosse, les croyants de Colosse, et par conséquent, nous aussi, qui sommes lecteurs de ce même texte près de 2000 ans plus tard, Paul est en train de dire, vous devez faire mourir les choses qui sont supposées être des marchepieds. Et on en conviendra tous. Très régulièrement, il y a des aspects de notre vie qu'on sait qui ne plaisent pas à Dieu, des choses que l'on pratique, des choses que l'on maintient dans notre vie, qui ne sont pas approuvées par la parole de Dieu et qui ne sont donc pas approuvées dans le royaume de Dieu. Et par contre, et pourtant, on les maintient, on les garde, et au lieu d'en faire notre marchepied, donc des choses que nous piétinons, parfois même on les élève à des rangs d'honneur. Parce qu'on les aime, parce qu'on les affectionne, parce que ces choses sont importantes pour nous. Et pourtant, Paul, tout au long de cette semaine, nous disait qu'on devait plutôt s'affectionner aux choses d'en haut et non plus aux choses de cette terre. Le verset va terminer, donc après que Paul ait dit aux croyants de faire mourir ce qui est de la terre, Paul va expliquer quelles sont ces choses. Il va nous parler de différents termes, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qu'il va expliciter davantage en disant qui est une idolâtrie. Donc on va prendre chacun de ces termes et on va se rendre compte que c'est davantage que strictement la lecture superficielle qu'on peut en faire. Bien sûr, lorsqu'on lit impudicité, impureté, passion, mauvais désir, on a tout de suite l'impression que Paul n'adresse que des failles au niveau sexuel. Assurément, ces failles-là existent et assurément, elles font partie de la thématique que Paul aborde. Mais lorsqu'on retourne à l'examen des termes grecs qui sont utilisés ici pour impudicité, impureté, passion, mauvais désir, cupidité, on se rend compte que les sphères de nettoyage, les secteurs qui doivent être changés et transformés vont plus loin qu'un simple domaine sexuel, qu'un simple domaine de péché d'ordre sexuel ou charnel. Voyons voir ce que veut nous dire Paul. Tout d'abord, il va nous parler d'impudicité. Impudicité, et là vous irez effectivement me dire, mais Florent, ce terme-là parle spécifiquement de sexualité, et vous n'avez pas tort. Impudicité, le terme grec pour ce terme-là, c'est donc porneia, porneia, P-O-R-N-E-I-A, je répète, porneia, P-O-R-N-E-I-A. Et vous comprenez que dans le langage contemporain ou dans nos langues respectives, porneia en français a donné le terme porno, pornographique, pornographie. Donc effectivement, il y a une question sexuelle dedans. Par contre, lorsqu'on parle de l'impudicité porneia, le sens très étendu que ce terme-là avait dans l'oreille des Colossiens à l'époque, c'est qu'on parlait non seulement de la fornication, on parlait de l'immoralité et de toute relation illicite, relation sexuelle ou autre. Et on sait que la Bible est assez claire sur la question de la relation sexuelle entre un homme et une femme, mariés, bien entendu. Avant ça, c'est donc dans la zone du péché. Lorsqu'on parle de porneia et qu'on découpe le mot en deux suffixes, préfixes et suffixes, le mot porneia est composé d'abord de por, P-O-R, qui veut dire le chemin. Neia, qui est une négation. Donc, on est en train de dire le mauvais chemin, ou le chemin qui n'est pas bon, ou le chemin qu'on ne doit pas suivre. Et voilà pourquoi je disais tout à l'heure qu'on va étendre la chose plus largement qu'une simple question de pornographie et de sexualité. On doit s'interroger quel est le chemin que nous suivons. Est-ce que ce chemin est le bon chemin? On se rappelle cette semaine, on a dit que Jésus lui-même se présentait comme le chemin, la vérité et la vie. Sommes-nous en train de suivre Jésus? Et pour suivre Jésus, il faut donc suivre le chemin qu'il trace devant nous, le chemin qu'il nous enseigne aussi. Quant au respect de sa parole, quant au respect de la parole de Dieu. Et voilà pourquoi ce matin, s'interroger si nous sommes sur le bon ou le mauvais chemin, ça va beaucoup plus loin qu'une simple question sexuelle. Est-ce que je suis en train de viser ce que Dieu veut que je vise? Est-ce que l'objectif que j'ai devant moi est effectivement l'objectif que Dieu a pour moi? Si ce n'est pas le cas, je suis en train d'emprunter un mauvais chemin. Je ne suis pas en train d'emprunter le bon chemin. Alors, la première question pour toi, si tu veux te la poser au niveau de la chair et de la sexualité, c'est une chose. Je t'invite, oui, à le faire, mais je t'invite aussi à te poser la question par rapport à quels sont les objectifs que tu poursuis actuellement. Quel est le chemin que tu parcours actuellement? Ce chemin est-il celui de Dieu? Et quand on parle du chemin de Dieu, je vous dirais que parfois, on est dans le chemin, mais on n'est pas dans le temps. Soit on précède Dieu, soit on est bien au ralenti par rapport au temps qu'il voulait nous voir cheminer dans ce parcours-là. Donc la question pour toi, est-ce que nous sommes sur le bon chemin et sommes-nous exactement à l'endroit où il veut que nous soyons actuellement? Donc porneia, le croyant est appelé donc à supprimer de sa vie ce qui n'est pas digne du chemin que Dieu veut qu'on suive. Il continue en parlant de l'impureté. Ici, impureté en grec, c'est le terme akatharsia. Akatharsia, donc A-K-A-T-H-A-R-S-I-A. Akatharsia, A-K-A-T-H-A-R-S-I-A. Ici, lorsqu'on parle de ce terme-là, la définition serait quelque chose dont le sens moral est impur ou dont les motivations sont impures. Quelque chose qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Quelque chose que Dieu ne peut pas bénir. Ça serait bien de se poser la question dans nos vies, est-ce que Dieu peut bénir toutes les sphères de mon existence? Est-ce que tous les domaines qui composent ma vie sont dans l'état où ils peuvent être bénis par Dieu? Si Dieu devait tendre la main et toucher? Peut-il toucher toutes les sphères, tous les secteurs de ma vie? Dieu est saint et il faut que ceux qui s'approchent de lui aient aussi été sanctifiés. Alors voilà pourquoi on parle de l'impureté aujourd'hui, dans cette idée de s'interroger, à savoir est-ce que les motivations qui m'habitent, est-ce que le sens moral avec lequel je fonctionne, est-ce pur ou est-ce qu'il a été contaminé par la nature pécheresse, par l'opinion publique? Parfois, on se dit, ah, oh, mais ça, ce sont de vieilles histoires, le péché. Aujourd'hui, on est rendu ailleurs. Mais ce n'est pas parce que la société est rendue ailleurs et que la société appelle bon ce que la Bible appelle mauvais que c'en est pour autant bon. Ce n'est pas parce que la grande majorité de l'humanité est arrivée à un point où ils disent, cette chose-là, nous la déclarons aujourd'hui bonne, que c'est nécessairement bon. On se rappelle que chez Dieu, il n'y a pas l'ombre de changement ni de fluctuation. Alors, ce qui était péché avant la création de l'homme, puis après la création de l'homme, et jusqu'à la fin de l'histoire de l'humanité, tout ce qui est mauvais a toujours été mauvais, et tout ce que Dieu, condamne a toujours été condamné. Il n'y a pas eu de fluctuation dans le système de valeurs de Dieu. Donc, se pourrait-il que dans notre vie, malgré tout, à cause de l'influence de notre société, à cause de l'influence de notre époque, nous ayons permis dans notre vie des choses qui sont impures devant Dieu? Est-ce que les motivations même que j'ai sont les motivations que Dieu voudrait que j'aie? Parfois, on dit je veux travailler pour le Seigneur et je pose la question à savoir, mais pourquoi veux-tu travailler pour le Seigneur? Certains me disent j'aimerais prêcher et je pose la question à savoir, mais pourquoi voudrais-tu prêcher? Et lorsqu'on creuse un peu plus loin, à l'occasion, peut-être même souvent, on se rend compte que le désir de servir de certains, c'est en fait un désir d'être remarqué, d'être vu, d'être entendu. Un désir d'être celui, de pouvoir dire, d'être celui que Dieu a utilisé au détriment des autres. Je fais souvent cette analogie avec Pierre qui sort du bateau et je me dis, une des tentations que Pierre a eues lorsqu'il a marché sur les flots, c'est de se tourner vers les 11 autres qui sont dans la barque et qui sont restés pour se dire, hey, moi je suis le seul qui marche sur l'eau, là. Après Jésus, c'est moi qui marche sur l'eau. Et je pense que plusieurs d'entre nous, on aurait été à la place de, si nous avions été à la place de Pierre, on aurait eu ce dilemme-là avec l'orgueil, avec la fierté mal placée. Donc là, on tombe effectivement dans cette question d'akatharsia, akatharsia, qui veut dire une motivation qui est impure. Lorsqu'on analyse le terme grec, ici, c'est composé donc de deux particules, le a, qui veut toujours dire quelque chose qui est mauvais ou qui ne fonctionne pas, et katharsia, qui veut dire guéri. Donc, akatharsia, c'est quelque chose qui ne produit pas la guérison, quelque chose qui ne nous guérit pas. Et j'aime cette notion du terme akatharsia, quelque chose qui ne nous guérit pas. Puisqu'on l'a expliqué cette semaine, notre nature à notre naissance est une nature pécheresse. Alors tout ce qui ne guérit pas notre nature pécheresse est donc condamné par Dieu. Tout ce qui ne sert pas à modifier, à changer, à transformer notre nature pécheresse est donc désapprouvé de Dieu. Est-ce que dans ma vie, je cherche les choses qui vont me guérir? Est-ce que je cherche à prôner dans mon existence les choses qui vont me faire progresser dans le royaume de Dieu, qui vont me faire progresser dans ma relation avec le Seigneur? Est-ce que je peux dire effectivement que mon temps est utilisé avec des choses qui me permettent de m'approcher de Dieu? Est-ce que je meuble mon existence? Est-ce que ce qui me passionne sont des choses qui me permettent d'être transformé pour être un meilleur enfant de Dieu, une meilleure créature de Dieu? Alors les choses qui occupent ton quotidien, est-ce que ce sont des choses qui te guérissent, des choses qui te guérissent de ta nature pécheresse, de tes mauvaises tendances, de tes mauvais plis, de ton mauvais mode de vie? Est-ce qu'on peut dire effectivement que tu reçois à travers la parole de Dieu et que tu appliques dans ta vie et que tu primes ou que tu mets comme primauté sur ta vie les choses qui effectivement vont t'amener à te guérir de ta nature pécheresse. Par la suite, il rajoute les passions, donc impudicité, porneia, impureté, akatharsia, et puis par la suite, il dit passion. Passion, c'est pathos, P-A-T-H-O-S, P-A-T-H-O-S. Et c'est très lié avec le terme précédent qui était akatharsia, akatharsia qui voulait dire ce qui guérit, pathos, lorsqu'on le ramène dans notre langue moderne qu'est le français, de pathos, on a eu des termes comme pathologie, qui veut dire ce qui est malade, une maladie, quelque chose qui rend malade. Alors tout à l'heure, c'était se couper des choses qui ne nous guérissent pas. Ici, Paul va encore plus loin en disant couper les choses qui vous rendent malade. Les choses qui nous rendent malades, pas simplement au niveau physique, mais assurément au niveau spirituel. Est-ce qu'il se pourrait qu'il y ait des pratiques dans ma vie qui me rendent malade? Est-ce qu'il se pourrait qu'il y ait des façons de faire, des habitudes, des coutumes que je maintiens dans ma vie? Et au lieu de me rendre mieux portant devant Dieu, ces choses viennent à me faire pécher encore davantage. Un peu cette image que la parole de Dieu disait, si ton œil te fait pécher, arrache-le, si ta main te pousse au péché, coupe-la. Assurément, il y aurait beaucoup d'aveugles et beaucoup de borgnes dans notre société si on appliquait au pied de la lettre ces choses-là. Il y aurait aussi énormément de gens qui auraient les bras, les mains, les pieds coupés si effectivement on appliquait textuellement ce texte. Mais se pourrait-il que dans ma vie, Dieu soit en train de me parler, Dieu soit en train de te parler en te disant, mon enfant, il y a tel et tel domaine dans ta vie, ou il y a telle et telle chose dans ta vie, il y a tel ou tel élément dans ta vie qui te pousse constamment à pécher, qui t'amène directement à être malade devant moi. Et ces choses doivent être coupées. Donc, impudicité porneia, impureté akatharsia, passion pathos. Et là, il nous parle par la suite des mauvais désirs. Mauvais, c'est kakos. 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 Qui veut parler d'une mauvaise nature, qui parle de quelque chose qui est pernicieux, pernicieux plutôt, quelque chose qui est mesquin, donc quelque chose qui est taché par le mal. Désir, épithymia, épithymia, E-P-I-T-H-Y-M-I-A, je répète, E-P-I-T-H-Y-M-I-A, qui nous parle ici des envies, effectivement des désirs, mais des désirs qui sont ardents, des désirs qui sont ardents de ce qui est interdit. C'est ce désir de l'interdit. Des choses qu'on sait qu'on ne doit pas, mais qui nous tentent. Des choses qu'on ne doit pas toucher, mais qu'on va toucher. Un peu comme la personne qui sait qu'il y a des problèmes avec sa glycémie et qui dit, je sais que je ne dois pas prendre de bonbons, mais il y a un pot de bonbons devant elle et elle est comme, elle se dit incapable de ne pas y plonger les deux mains et de se gaver de bonbons. Il y a dans notre vie des choses qui, de leur nature, ne sont pas bonnes. Vous en conviendrez que entre une pomme et un bonbon, la pomme est meilleure. Entre un brocoli et une tablette de chocolat, le brocoli est meilleur. Entre, je sais pas, une tomate et puis des croustilles ou des chips, assurément, la tomate est meilleure. Mais très souvent, on a ce désir ardent qui se porte non pas sur une tomate, mais sur les chips. On entend rarement les gens qui nous disent: Hey, j'ai tellement, mais tellement envie de manger une tomate. Oh, ben, peut-être ça existe. Mon épouse aime beaucoup les tomates. Donc, ça pourrait arriver avec elle. Mais avoir un enfant qui nous dit: Papa, maman, j'ai tellement envie de manger du brocoli. On l'entend rarement. Par contre, un enfant qui nous dit: Papa, maman, j'ai tellement envie d'un bonbon. Combien de fois les parents l'ont entendu en une seule année ou en un seul mois d'existence de leur enfant? Donc, il y a des choses dans notre vie spirituelle vers lesquelles on est attiré qui, à la base, sont d'une mauvaise nature et de surcroît qui, malgré tout, brûlent en nous. Lorsqu'on parle de kakos, on parle donc de quelque chose qui est désordonné, quelque chose qui n'est pas dans un ordre approprié, qui n'est pas adéquat. De kakos, on va avoir notamment cacophonie. Donc, cette musique où tu as différents instrumentistes qui sont là et ils jouent tous sur un ton différent, ils jouent tous une mélodie différente en même temps, et quand tu les écoutes, il n'y a rien d'harmonieux. C'est une cacophonie, c'est un désordre. Épithymia est intéressant comme terme aussi. Épi veut dire au-dessus. Thymia parle des émotions. Donc des choses qui dépassent nos émotions. Les excès d'émotions. Ces emballements qu'on va avoir pour des choses qui ne sont pas d'une bonne nature. On parlait tout à l'heure de la pornographie et pour un bon nombre de personnes, la pornographie est effectivement une chose de mauvaise nature, mais qui emballe les passions, qui emballe les pensées, qui emballe même jusque l'être physique de quelqu'un. Est-ce qu'il se pourrait que dans ma vie, j'ai des choses désordonnées, de mauvaise nature, et qui emballe malgré tout mes émotions, mes sentiments. Et Dieu dit, non, je veux amener une pureté, je veux amener une sanctification, et ces choses-là, mon enfant, que tu sais qui sont de mauvaise nature et qui t'amènent vers le mal, tu dois les couper. Et enfin, il nous dit, la cupidité. Pléonexia. 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 Je répète, pléonexia pour cupidité. Pléonexia. La cupidité, c'est ce désir d'avoir davantage. Ce désir de posséder davantage. On va avoir des synonymes comme l'avarice, comme la convoitise notamment. Donc ce désir de posséder pour moi davantage. Pléo veut dire beaucoup ou nombreux et veut dire remplir ou insuffler, gonfler une chose. Et Nexia parle de chef. Donc pléo, beaucoup. Nexia, le chef. Remplir le chef. La cupidité, c'est lorsque je suis le chef de tout ce qui existe autour de moi. Quand l'importance est mise sur ma propre personne. Et quand tout ce que je cherche à acquérir, c'est pour ma propre personne. Et vous direz, ah oui, mais on peut vouloir aussi acquérir des choses pour les gens qui sont autour de nous. Effectivement, mais même dans ce mouvement altruiste, donc pousser vers l'autre, parfois je suis poussé vers l'autre juste pour que l'autre reconnaisse que je lui ai fait du bien. Et à ce moment-là, mon acte d'altruisme est de la cupidité. Parce que foncièrement, ce que je voulais, c'était pas bénir l'autre, mais c'était que l'autre sache que je l'ai béni pour que lui sache me dire merci en retour. La cupidité peut être ô combien pernicieuse. La cupidité peut se présenter dans nos vies de façon tout à fait obscure, confuse. Et lorsqu'on analyse plus profondément, on se rend compte que l'objectif que nous avions en menant une chose, en obtenant une chose, en courant après une chose, c'était en fait de satisfaire notre propre chef, notre propre personne. Et Paul va dire que la cupidité, c'est comme de l'idolâtrie. Une cupidité qui est de l'idolâtrie. En fait, Paul est en train de dire, lorsque tu es cupide, lorsque tu es avare, lorsque tout tourne autour de toi, en fait, ce qui se passe, c'est que tu deviens le centre de ton adoration. Lorsque je suis cupide, mon emphase particulière, c'est ma propre personne. Et on s'entend que Dieu nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu en premier, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'enseignement de Jésus, c'était, il faut que tu mettes Dieu au premier, puis tu mettras le prochain en rang numéro 2. Et enfin, tu auras au numéro 3 ta propre personne. Malheureusement, combien de fois on tombe dans le piège et dans la facilité de chercher notre propre intérêt avant l'intérêt de Dieu, notre propre intérêt avant l'intérêt de notre prochain. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ce matin? On a vu qu'il y a des choses qui doivent être coupées, émondées de notre vie. Et ça, ce n'est nul autre que nous qui devons le faire. Paul va dire, faites donc mourir. Faites mourir. À vous de mettre à mort ces choses, ces membres qui sont de cette terre, qui devraient être votre marchepied, mais qui viennent occuper un rang de prédilection dans votre vie. Et il va parler de l'impudicité, le porneia, donc le mauvais chemin, ce qui nous éloigne de Dieu, ce qui ne nous conduit pas vers Dieu. Il va aller par la suite avec l'impureté, la catharsia, donc ce qui ne produit pas la guérison, ce qui ne cherche pas notre mieux-être, ce qui ne nous améliore pas. Il va pousser plus loin en parlant par la suite des pathos, ce qui me rend malade, ce qui est une maladie dans ma vie. Enfin, il va parler des mauvais désirs, kakos, epithémia, donc ce qui est désordonné, ce qui excède dans mes émotions. Est-ce que Jésus est ma seule ou ma première passion? Jésus est-il vraiment au premier rang de mes passions? Et enfin, il va parler de la cupidité, là où je gave mon propre chef, là où je remplis mon propre chef, là où je fais en sorte que Dieu n'est pas premier, le prochain n'est pas deuxième, je suis premier pour moi-même. L'amour du moi, la passion du moi, la quête d'un mieux-être pour le moi au détriment du plan de Dieu et au détriment de mon prochain. Alors assurément, il y a des choses pour toi et pour moi à analyser ce matin dans nos vies et à couper et à mettre à mort. Prions. Seigneur, ce matin, tu nous parles sur des domaines cachés de notre existence. Combien de fois, Seigneur, on a emprunté un chemin qui n'était pas celui que tu avais pour moi. Alors forcément, c'est un mauvais chemin. Souvent, Seigneur, on a gardé des choses dans notre vie qui ne nous guérissaient pas, qui ne nous amélioraient pas, qui ne nous permettaient pas d'aller de mieux en mieux et de progrès en progrès. Pire, on a gardé parfois des choses qui nous rendent malades. Malades dans notre être, dans notre âme, dans notre esprit, qui nous privent d'une santé spirituelle adéquate. Parfois, Seigneur, on a de ces passions qui dépassent ce que les émotions devraient être. Ça vient nous obnubiler. Et tu nous dis qu'on doit faire mourir ces choses-là. Et parfois, Seigneur, ce qui vient nous obnubiler, ce qui est l'emphase de notre réflexion, de notre pensée, de nos désirs, c'est notre bien-être personnel. Et tu appelles ça de la cupidité. À ce moment où Dieu n'est pas premier, où le prochain n'est pas deuxième, mais tout a été décalé parce que je suis le premier intérêt de ma propre vie. Seigneur, pardon. Permets-moi, Seigneur, de découvrir dans ma vie, alors que tu m'illumines par ta présence, permets-moi de découvrir ces domaines où tu n'es pas numéro un. Permets-moi d'identifier clairement les choses qui volent ta place et qui volent la place de mon prochain, pour que je puisse mettre à mort ces choses de cette terre et vivre de ce côté-ci de l'éternité comme je vivrai lorsque je serai en ta présence. On l'a dit à maintes reprises cette semaine, notre vie ici-bas sur terre devrait être la même que celle que nous mènerons pour l'éternité au paradis en la présence de notre Seigneur. Alors je prie que je puisse, Seigneur, améliorer ce qui doit être amélioré. Je prie, Seigneur, que je puisse anéantir dans ma vie ce qui doit être anéanti, afin de mener cette vie ici-bas sur terre, comme tu veux que je la mène. Seigneur, je prie que tu parles à ma sœur et à mon frère, et qu'eux aussi aient l'hardiesse et le bon sens de prendre les décisions qui s'imposent. Merci de nous avoir parlé. Garde-nous aujourd'hui. Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Amen. Alors voilà ce que nous avions ce matin. C'était assurément pas le sujet le plus joyeux qui soit, mais je pense que c'est un sujet important aussi. On veut tous plaire à Dieu et on veut tous progresser. Voilà pourquoi à l'occasion, ça prend ces temps où je m'interroge à savoir, mais qu'est-ce qui pourrait bien voler la place de Dieu dans ma vie, et que le Seigneur me parle avec clarté, avec limpidité, et comme le dit la parole de Dieu, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que Dieu dit à l'Église. Alors sur ce, bonne journée à tous, on vous rappelle notre rendez-vous ce soir pour notre temps de prière, d'intercession, à partir de 19h, en espérant qu'on soit de retour, pas bloqué par le convoi de poids lourds qui traverse la métropole aujourd'hui. Alors sur ce, que Dieu vous bénisse. Bonne journée. Au revoir tout le monde.